L'EM, l'émission, l'émission, sur Transistor, creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui plonge vos oreilles dans le Finistère. C'est la 9e saison. Ce lundi, c'est science, mais appliquée sur le terrain. Début janvier, on s'était penché sur OSIRISC, l'Observatoire intégré des risques côtiers en Bretagne. Il regroupe 3 laboratoires de l'IUEM, l'Institut universitaire européen de la mer. C'est notre invité qui coordonne le projet, Nicolas Le Dantec, qui est géomorphologue. Dans l'émission précédente, que je vous invite à réécouter, Nicolas Le Dantec nous a expliqué les risques qui concernent notre littoral du fait des changements climatiques. Élévation du niveau de la mer, érosion côtière, multiplication des épisodes de tempêtes, tout ça donne des risques de submersion marine, des risques liés à notre attrait pour le bord de mer et toutes ces habitations et équipements que nous y avons implantés. Donc, après avoir évoqué ces risques et leurs manifestations, on va se pencher aujourd'hui très concrètement sur l'observation. Comment est-ce qu'on organise cette mesure du niveau de la mer ? Bonjour Nicolas Le Dantec.
Bonjour.
Qui déjà est censé observer en ce qui concerne le Finistère et OSIRISC, quelles sont les personnes qui sont censées observer par les scientifiques ?
Alors en fait, il y a plusieurs manières de déployer de l'observation. En Bretagne, le linéaire côtier est particulièrement étendu, hein, plus de 4000 km, et très découpé, ce qui fait que si on veut avoir une donnée utile et représentative des évolutions sur un secteur donné, en fait, on ne peut pas se contenter d'un nombre fini de sites. Il faut avoir des observations vraiment, je ne vais pas dire un petit peu partout, mais pratiquement. Et donc, du coup, effectivement, les scientifiques qui travaillent sur un nombre limité de sites ateliers, ils ne peuvent pas répondre à ce besoin d'observation. Alors, il y a des organismes nationaux qui peuvent se charger de réaliser ces suivis. Mais l'originalité sur laquelle on travaille en fait avec l'Observatoire OSIRISC, c'est de travailler en partenariat avec les gestionnaires des risques côtiers à l'échelle locale, donc les communes ou les intercommunalités, voilà, qui elles se retrouvent confrontées à un besoin de comprendre et de gérer ces risques, hein, puisque l'État transfère progressivement cette compétence, cette charge, en fait, vers l'échelon local. Par ailleurs, ce qui est très bien parce que, pour répondre aux problématiques d'adaptation au changement climatique, l'échelon local est sans doute le meilleur.
Mais oui, puisqu'on est les premiers concernés.
Voilà. Mais du coup, il y a un vrai besoin de développer les compétences techniques qui ne sont pas toujours présentes, hein, sur une petite collectivité rurale, et un besoin d'avoir des données précises à l'échelle locale sur un grand linéaire côtier. Et donc c'est pour ça que s'appuyer sur les acteurs qui sont présents, qui connaissent leur territoire, juste en développant leur capacité de mesure, en augmentant les compétences, nous paraissait la stratégie la plus adaptée.
Donc en fait, les communes ou intercommunalités adhèrent, c'est ça, à l'observatoire, en fait, concrètement ?
Voilà, concrètement, c'est un engagement qui... Voilà, et formel dans le sens où les élus délibèrent et décident de s'engager. Donc ça permet d'inscrire cet engagement dans le temps long et puis de formaliser les transferts de données, par exemple. Là, on leur demande de s'inscrire dans une démarche de collecte de données. Après, il y a tout le cycle de la donnée qu'il faut suivre. Qualification, bancarisation, diffusion, interprétation et tous ces outils-là, on en dispose à l'IUEM, à une expertise sur tout le cycle de la donnée. Et voilà, pour éviter que les données, une fois que l'effort de collecte a été fait, risquent d'être perdues parce que la bancarisation n'est pas bien faite, elles sont un peu éparpillées.
Stockage, bancarisation, c'est le stockage, quoi.
C'est le stockage, enfin, ouais, voilà, le stockage pour assurer une disponibilité à long terme et puis qualifier la qualité des données. Donc tout ça, on met tout ça à disposition, en fait, hein, tous ces sortes de services supplémentaires sur la donnée. Donc toute la démarche de collecte, en fait, ça commence par identifier les sites qu'on veut suivre, voilà, ceux sur lesquels il y a le plus d'aléas, où il y a des enjeux particuliers, où on a noté beaucoup d'impacts de tempêtes récemment. Puis on travaille avec eux pour prioriser en fonction.
Oui, parce qu'il peut y en avoir plusieurs par commune, évidemment.
Hein. Évidemment, on souhaite toujours en suivre plus, mais la contrainte, c'est le temps à disposition.
Et c'est ça.
Donc, voilà, c'est les
parce agents. Que c'est les agents qui suivent, hein. C'est pas les élus, évidemment.
C'est les techniciens, voilà, des services.
De quels services, d'ailleurs, en
général, gestion des risques côtiers. Ouais. Voilà, les prises de compétences sur la gestion des milieux aquatiques et l'érosion, voilà, amènent les collectivités à étoffer un petit peu leurs services sur ces domaines-là. Donc voilà, en général, il y a un chargé de mission qui s'occupe de cette question-là qui va avoir parfois quelques jours, parfois un petit peu plus par an, à ça. Donc ben voilà, on fait en fonction du temps disponible pour prioriser les sites. Ensuite, on va sur le terrain pour définir quel est le protocole le plus adapté.
Vous allez nous donner des exemples de protocoles, j'imagine. Enfin...
Voilà, donc sur les pour ce qu'on veut suivre, en fait, c'est à minima l'évolution du trait de côte, donc la limite entre la terre et la mer. Donc on utilise des marqueurs sur des dunes, par exemple, c'est la limite de végétation, par exemple, ou le pied de dune.
Pas évident, parce que les dunes, elles bougent.
Effectivement, c'est ça qu'on veut voir, c'est ce mouvement.
Ah oui, d'accord.
En général, pour les côtes d'accumulation, là, les plages sableuses, les cordons de galets, on préconise de faire ces suivis deux fois par an, avant et après hiver. Et donc le trait de côte, ça n'est qu'un indicateur du bilan sédimentaire, en fait. Pour aller un petit peu plus loin, idéalement, il faut aussi acquérir des profils. Donc là, on n'est pas le long du trait de côte en suivant un marqueur de trait de côte. On est perpendiculaire au trait de côte, donc de la côte vers le large, en fait, sur tous les strands. Et on vient mesurer le niveau de sable, en fait. Et en reproduisant ces mesures-là, donc à nouveau tous les 6 mois, on peut suivre l'évolution de l'ensemble de la plage. Et donc, il faut choisir suffisamment de profils pour que ce soit représentatif. Sur une plage, les deux extrémités ne vont pas forcément se comporter de la même manière, mais on ne peut pas non plus multiplier les profils parce que ça prend du temps.
C'est combien de temps, justement,
d'optimiser.
Un suivi de site, quoi.
Voilà, mettons une plage de 500 mètres de long sur laquelle on ferait deux profils. Ça peut prendre 2 heures au GPS, voilà, avec une antenne GPS. Donc là, tout le monde sait ce que c'est qu'un GPS. On l'utilise pour naviguer en voiture, etc. Là, on a... c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas une seule antenne, c'est une antenne qui est connectée à une autre antenne qui sert de base, ce qui permet d'avoir une précision supérieure. Donc on arrive à une précision de l'ordre de quelques centimètres.
Et la personne marche ?
Et donc la personne se déplace avec l'antenne mobile, qui est souvent montée sur une canne, et puis positionne la canne, nivelle, et prend la mesure d'un certain nombre de points le long du profil. L'idée, c'est d'en avoir suffisamment pour que, avec les points collectés, on puisse reproduire tous les changements de relief, les changements de topographie le long du profil.
Oui, puis il faut que la personne soit exactement au même endroit à chaque fois, enfin, c'est ça.
Alors, en fait, on suit la même radiale, le même profil, mais on n'est pas obligé de prendre les points exactement au même endroit d'une année sur l'autre, en fait, parce que les changements de pente, les creux dans les plages, etc., les positions décroissantes vont changer d'une année à l'autre. Donc, l'idée, c'est que le moment où on fait le profil, on prenne toutes, on appelle ça les ruptures de pente, voilà, tous les changements de pente, les points hauts et les points bas, qui permettent en... connectant les points, en fait, de reconstituer aussi fidèlement que possible le relief. Voilà, tout en n'y passant pas trop longtemps. Donc ça, c'est une approche pour les côtes basses. Pour les côtes à falaise, on ne peut pas grimper sur la falaise avec son antenne mobile. Donc il faut utiliser des outils qui permettent de faire cette même mesure, en fait, de capture, en fait, du profil topographique, mais à distance. On a essayé autant que possible de se concentrer sur des outils pas trop chers.
Oui, c'est pas des drones, quoi.
Basse technologie, voilà, parce qu'on peut faire des mesures par LIDAR. Hein.
C'est oui, en fait un aussi, système
qui utilise
c'est le laser, technologie
optique,
c'est ça,
voilà, un laser qui pointe. Donc là, on a un nuage de points très, très, très dense. C'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, puis ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Hein. Les dispositifs GPS dont on parle, Une antenne, ça coûtait 10 000 euros il y a quelques années, mais en faisant des dispositifs qu'on assemble soi-même, en fait, ça coûte 600 à 800 euros. Mmh. C'est vraiment tout à fait abordable.
Et la commune n'a pas besoin de disposer en permanence de l'outil, c'est vous qui lui apportez à
en
la
fait,
limite
enfin... les financements qu'on obtient pour le déploiement de ces observatoires, on a besoin surtout de ressources humaines, mais on demande aussi un petit peu d'équipement de manière à pouvoir mettre à disposition sous forme de prêt ce matériel-là pour que ça ne présente pas un investissement, que ce ne soit pas bloquant pour la collectivité.
Mais vous le faites tourner, c'est pas forcément...
Donc on peut le faire tourner. Après, en fait, parce que ça ne coûte pas très cher et que c'est pratique, qu'on le laisse à disposition de la commune ou de l'intercommunalité qui, en fait, en trouve l'utilité pour d'autres usages.
Ah oui.
Cartographie des réseaux, d'eau, d'électricité, voilà, suivi faune, flore. En fait, c'est des outils qui sont très précieux pour plein d'autres applications.
Oui.
Donc c'est vraiment, on dépasse le champ des risques côtiers, mais on est vraiment dans
le développement des
capacités d'observation.
Ok, très bien.
Et donc ça permet de favoriser l'appropriation de ce type d'outils-là. Donc voilà, pour les falaises, plutôt qu'un lidar qui projette un faisceau qui balaye en fait tout le front de falaise qu'on veut imager, on utilise un pointeur laser. Et on relève un nombre fini de points le long du profil de la falaise. Cette méthode-là, qui est exactement la même chose qu'un lever GPS, en fait, sauf qu'on a une mesure qui a un positionnement relatif qu'il faut recaler après avec du GPS pour avoir un positionnement absolu. Je ne rentre pas trop dans les détails. On a aussi d'autres méthodes maintenant qui sont possibles et qui sont simples d'utilisation. C'est la photogrammétrie. Il s'agit en fait de prendre un grand nombre de photographies d'un même site, en fait. Et il y a des logiciels qui permettent ensuite de réassembler ces photos. Mmh. S'il y a suffisamment de recouvrement entre les photos 2 à 2, on peut donc les assembler pour avoir une mosaïque de photos. Et si on a quelques informations de positionnement, typiquement on met des cibles sur la zone qu'on veut imager et on positionne ces cibles avec l'outil GPS, on peut aussi à l'inverse positionner l'appareil photo qui effectue les prises de vue, c'est l'un ou l'autre. Donc en fait là en une heure on peut couvrir un site de 200-300 mètres de linéaire avec peut-être 200 photos, mettons, et ensuite on obtient là pour le coup un modèle numérique de terrain très complet. Donc c'est très adapté pour les falaises où les falaises c'est assez difficile, c'est pas comme les plages où il peut y avoir des variations le long de la plage, mais toute la plage va évoluer de manière assez cohérente. Pour les falaises, on peut avoir des éboulements, des effondrements assez localisés.
On les voit, ceci dit. Voilà.
Et c'est encore plus pertinent, du coup, d'avoir ces modèles numériques de terrain, parce que le profil qu'on a choisi, l'effondrement, deux années après, peut se produire à côté du profil. Et dans ce cas-là, on ne mesure pas, en fait, ce qui se passe. Donc, comme c'est très ponctuel dans le temps et dans l'espace, c'est intéressant d'avoir cette mesure surfacique, en fait.
Et vous disiez que c'était récent, la photogrammétrie, c'est parce que c'est l'IA qui a permis de développer l'intelligence artificielle ou
Donc, il y a effectivement, peut-être, on peut dire de l'IA, mais en tout cas, il y a eu une optimisation des logiciels qui permettent de faire cet assemblage de photos, en fait, et une sorte de démocratisation de l'outil qui est utilisé dans plein d'applications, des suivis de chantier, des suivis archéo, voilà. Et effectivement, ça, c'est disponible depuis peut-être 10-15 ans, ça n'existait pas avant.
On a parlé donc des gens, du matériel, le protocole, on en a parlé. Enfin, il y a quelque chose à ajouter là-dessus
Non, c'est bien. Voilà, faut retenir l'idée qu'on y va deux fois par an, qu'on suit le trait de côte des profils de plage si on veut, que pour les falaises, il faut avoir d'autres méthodes qui permettent d'avoir plutôt un modèle numérique de terrain. L'idée, c'est de capturer les évolutions et surtout de le faire sur le temps long. On ne peut pas le faire sur quelques années, ça ne suffit pas.
Voilà.
Et donc l'idée, quand on parlait plutôt de les collectivités qui adhèrent, en fait, c'est vraiment inscrire leur démarche sur un suivi à long terme et être sûr que c'est eux-mêmes qui s'approprient, en fait, dès le départ de la chaîne de production des données, ils vont s'approprier les compétences sur ce sujet-là.
Combien de collectivités adhèrent, dans le Finistère en tout cas, aux IRIS?
Alors, pour l'instant, 13, sur les 16. Alors, on parle de collectivités, en fait, les entités qui sont gestionnaires des risques côtiers, parfois, ce sont des syndicats de bassin, par exemple.
Ah oui, les PAGA, les PAB, voilà, etc.
On peut dire 13 sur 16, en gros. Donc, on a quasiment fait tout le tour du Finistère. Et puis, avec d'autres financements là, régionaux sur des fonds FEDER, on étend progressivement au reste de la Bretagne. Donc là, on travaille beaucoup sur les Côtes d'Armor et jusqu'à l'Ille-et-Vilaine.
J'imagine qu'ils sont intéressés aussi, enfin, il n'y a pas de raison.
Il y a le besoin, il ouais, est partout, hein, vraiment.
Et vous, vous formez évidemment les agents, enfin régulièrement, hein, du coup, parce que les agents changent aussi.
Alors, on espère que la compétence se maintient, parce qu'il y a effectivement un certain turnover au niveau des agents. On espère aussi, et c'est l'idée du partenariat à long terme, hein, que ben, quand il y a un nouveau mandat, des nouveaux élus... La démarche ne s'arrête pas. Mais effectivement, il y a un volet formation qui est très, très conséquent. Au-delà
oui,
de l'accompagnement,
c'est difficile,
la mise en place des protocoles et cette aide au départ, bah, il faut former aux outils, il faut s'assurer que en fait, la collecte des données est faite de manière à ce que les données soient fiables. Donc, on retourne sur le terrain avec les agents jusqu'à ce qu'on soit certain que les protocoles sont bien suivis. Puis, on les accompagne aussi pour les volets bancarisation et interprétation des données.
Et donc, c'est des données numériques essentiellement. Elles ne sont pas transmises automatiquement, non ? Il faut faire quelque chose en plus
Oui, dans la manière pratique, les données sont stockées sur un instrument, et donc il faut les exporter, les reformater, et puis ensuite les intégrer dans une base de données qui permet après qu'elles soient accessibles à tout un chacun.
Et c'est l'IUM après, les labos de l'IUM qui récupèrent ces...
Alors, effectivement, les données sont stockées sur des serveurs de l'IUM et qui hébergent aussi les plateformes de visualisation. De manière à ce que tous les acteurs scientifiques ou opérateurs publics puissent y avoir accès. Il y a de la formation qui devrait permettre que les acteurs puissent eux-mêmes faire ces étapes d'extraction des données de l'instrument, formatage et intégration dans la base de données.
Mais interprétation, ça reste les scientifiques qui interprètent. On est d'accord.
Alors, les plateformes qu'on développe contiennent aussi des services d'exploitation des données qui permettent aux utilisateurs de pouvoir faire des traitements préliminaires. Donc, on essaye, et c'est parfois compliqué, mais d'automatiser les processus qui permettent, par exemple, de calculer des bilans sédimentaires à partir de la succession dans le temps de plusieurs profils, de calculer des vitesses de recul à partir de la succession dans le temps de plusieurs traits de côte numérisés. Et donc, tous ces outils-là, on essaye de faire en sorte que les chargés de mission dans les collectivités puissent les avoir à disposition pour exploiter tout de suite de manière autonome. C'est ça aussi, développer les compétences, ça va aussi jusqu'à l'interprétation pour avoir un regard critique sur les données, sur son propre territoire et pas avoir besoin de faire appel systématiquement aux scientifiques ou à des bureaux d'études pour des étapes préliminaires de traitement. Après, quand il y a des études plus poussées, évidemment, il y a des bureaux d'études qui s'en chargent.
Oui, il peut y avoir des observations exceptionnelles. Enfin, si, je ne sais pas comment vous définissez les dates auxquelles doivent avoir lieu les observations. Je ne sais pas, on dit c'est tout le temps le 21 mars, le 21 septembre. Puis tout à coup, il y a une tempête. On aimerait bien avoir, juste après la tempête, une observation.
C'est très juste, effectivement. On préconise de faire avant et après la période hivernale. En général, c'est vers septembre-octobre, puis ensuite vers avril, par exemple. Mais idéalement, et encore une fois, ça dépend de la réactivité, de la disponibilité des agents. Mais si c'est possible, faire juste après une tempête, ça permet vraiment de caractériser l'impact de cette tempête. Voilà. Et ça, c'est très important. On sait que les événements extrêmes comptent pour beaucoup dans les dynamiques observées. Et voilà, pour les modèles de projection, de prédiction de l'évolution future, il y a un paramètre qui est le taux moyen. Il y a un autre paramètre qui est la distance maximale de recul possible pendant un événement extrême. Et ce paramètre-là est assez difficile à caractériser. Et donc faire des suivis juste avant et juste après un épisode de forte tempête, ça permet d'incrémenter une base de données sur ce recul maximum.
Les mesures ont commencé quand exactement
C'est assez disparate au niveau du Finistère. Hein. Les collectivités se sont engagées dans cette démarche de manière progressive. Heureusement pour nous, on n'aurait pas pu répondre à tout en même temps. Mais voilà, depuis 2020, disons. Après, on a été peut-être catalyseur pour certains territoires. Il y a d'autres territoires qui s'étaient engagés dans cette démarche-là en amont et qu'on a accompagnés pour voilà, s'assurer que les protocoles sont suffisamment homogènes pour que les données, une fois intégrées, puissent être intégrées sur une base de données avec un format cohérent qui permet de les exploiter à un niveau territorial plus large. Hein, voilà. Pour le conseil départemental du Finistère, par exemple, c'est important d'avoir une vision à l'échelle du département et donc que les protocoles utilisés soient homogènes à l'échelle du département, pareil au niveau de la région. Donc voilà, ça s'est étalé de le partenariat en place depuis 2019, les observations collaborative, hein, en partenariat avec les collectivités, ont démarré depuis 2020.
Oui, donc c'est un peu tôt pour avoir vraiment... Enfin, est-ce qu'on voit déjà des choses?
Alors, sur certains territoires, on a maintenant 5 ans, donc ça permet déjà de voir des choses, donc de filtrer les variations saisonnières et d'avoir une petite tendance pluriannuelle. Et puis surtout, on dispose d'autres données qui nous permettent d'avoir des points de comparaison plus anciens. Donc pour les traits de côte, il y a toutes les photographies aériennes.
Et donc, c'était dans les archives, là, pour
voilà,
le coup.
Les archives, des photos qui datent des années 50, où la résolution ne permet pas forcément d'avoir quelque chose de comparable avec une incertitude suffisamment réduite, mais par les photos aériennes depuis les années 2000, par exemple, là, on a une bien meilleure précision. Donc, on a ce temps un petit peu plus long qui permet justement de mieux valoriser les données qui sont maintenant plus récurrentes, mais on a ce recul de 20 ans. Et il y a aussi une autre donnée qui est très utile. On parlait de modèles numériques de terrain. Voilà, on dispose d'une donnée LIDAR aérienne sur toute la zone côtière, donc à la fois estran et zone continentale, en fait, côtière, mais aussi sur la zone immergée jusqu'à 15-20 mètres de fond. Qui date de 2012.
Qui avait été faite pour quoi ?
C'est le produit Litho 3D. Donc en fait, pour plein d'objectifs, hein, c'est le CHOM qui est à l'initiative de cette campagne-là. Donc pour eux, c'est de l'hydrographie, donc faire des cartes marines plus précises et régulièrement mises à jour. Mais il y a plein d'applications pour des questions usage du domaine public maritime, dragage dans les ports. Et là, pour établir des bilans sédimentaires, c'est une donnée qui est très, 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 très précieuse. Et donc là, on peut comparer les suivis photogrammétriques qui sont faits maintenant. On peut le comparer entre 2012 et maintenant. Donc on a déjà la possibilité d'établir des bilans sédimentaires. Et le conseil départemental du Finistère est en train de travailler au montage financier, en fait, pour renouveler...
C'est la question que j'allais poser, voilà. Il faudra en faire un.
Ouais. Donc, effectivement, on voudrait en faire aussi souvent que possible. Maintenant, ça a un coût.
Ouais, on peut peut-être en faire un tous les 10 ans. Enfin, ça serait raisonnable,
peut-être. Ce serait
peut-être
un bon objectif, effectivement. On est parti, en fait, sur cette temporalité-là. Il se trouve que le Finistère était pionnier. Le Finistère est pionnier dans beaucoup de choses. Mais, en fait, ils ont été l'un des premiers territoires en France à collecter ce levé LIDAR topo-bathymétrique, hein, le produit Litho 3D. Donc, il est temps pour le Finistère de renouveler. Les autres départements bretons l'ont complété avec des levées vers 2020, je crois, et le produit est sorti en 2022-2023. Je me trompe peut-être sur les dates un petit peu, mais voilà, c'était en gros 10 ans plus tard. Donc là, un Finistère, c'est le bon moment pour réacquérir des données par ce procédé-là. Et en fait, toutes ces méthodologies, ces outils en fait, de suivi, se complètent. On parlait de photos aériennes sur des horizons temporels longs. Là, on a le LIDAR. Ça peut être fait tous les 10 ans, tandis que la photo aérienne, maintenant, l'IGN en met à disposition tous les 2-3 ans. Et puis, les levées terrain, c'est site spécifique, c'est tous les 6 mois. Donc, c'est beaucoup plus récurrent. Mais on n'a pas un produit qui couvre l'ensemble du territoire. Donc, c'est vraiment en combinant toutes ces données qu'on arrive à avoir une bonne description sur des échelles spatiales et temporelles emboîtées des dynamiques littorales.
Et ces relevés de terrain, ça se passe comment ? Enfin, là, c'est plus une question sur la relation avec les communes, enfin, les intercommunalités, comment ça se passe ?
ils sont très demandeurs, en fait. Il y a, on pourrait ainsi dire, un déficit d'expertise technique, vu que ces choses-là étaient gérées au niveau de l'État avant, ou des services déconcentrés de l'État, et qu'il y a un transfert vers les communes. Ben voilà, il ne s'est pas forcément accompagné d'un transfert de compétences. Et donc, c'est important pour la communauté académique de s'inscrire dans cette démarche d'appui à la mise en œuvre des politiques publiques via non seulement la recherche, l'observation, la mise en place d'observation, mais la formation. Et donc elles sont très demandeurs d'expertise, voilà, qui se déploient de différentes manières, mais notamment développer les capacités d'observation.
Et ils font ça bien sur le terrain.
Ils se débrouillent très bien, c'est des agents très compétents et qui sont souvent extrêmement convaincus de l'utilité de leur mission.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et puis comme vous disiez, ça a pu réveiller aussi d'autres sujets sur la commune, de faire cette observation indirectement, quoi.
Ouais. Et les élus sont aussi tout à fait conscients que c'est une nécessité d'avoir une connaissance beaucoup plus fine pour pouvoir adapter le littoral, et qu'il est largement préférable d'anticiper pour pouvoir ne pas se trouver au pied du mur et avoir des situations plus difficiles à résoudre par la suite.
Peut-être qu'on fera une troisième émission sur la gestion des risques et ce que préconise Osiris. Merci beaucoup Nicolas Le Dantec.
Merci à vous.